France Info.
Bonsoir, l'ISF sur la Sellette. Son rétablissement est réclamé par un grand nombre de gilets jaunes. Édouard Philippe, en ouverture du débat qui s'est tenu à l'Assemblée nationale, s'en est remis à un comité d'évaluation. L'Élysée précise ce soir à France Info qu'il n'y aura pas de retour à l'impôt de solidarité sur la fortune. 3 semaines de mobilisation déjà, mais que va donc faire Emmanuel Macron, qui demeure en retrait? Son Premier ministre est devenu, par la force des choses, premier de cordée pour tenter de dénouer une crise enracinée. Les informés se penchent ce soir sur les ressorts d'un conflit qui gagne désormais d'autres catégories. Comment en sortir? Quel est l'impact des mesures mises sur la table? Le grand débat promis va-t-il permettre de renouer les fils du dialogue? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous et bienvenue Audrey Goutard.
Bonsoir.
Journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. À mes côtés également, Virginie Leguet. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Paris Match, chef adjointe du service politique. Notre partenaire des informés, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, cofondateur et directeur de Atlantico.fr. Avec nous ce soir également, bonsoir David Bosmorin.
Bonsoir.
Et bienvenue, communicant, mais aussi cofondateur de l'agence OPS2. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Rien de tel qu'un débat à l'Assemblée nationale pour tenter, je dis bien, tenter de renouer le dialogue avec une représentation nationale elle-même déconnectée du mouvement des Gilets jaunes qui a démarré, je vous le rappelle, depuis près de 3 semaines déjà sans trouver aucune issue pour l'instant. Il faut lâcher du lest, mais pas sur tout. Un sujet est donc monté en force, l'impôt sur la fortune. Ceux qui se mobilisent réclament son rétablissement. La réponse d'Édouard Philippe cet après-midi dans l'hémicycle.
Nous continuons de taxer la fortune immobilière. Et cet impôt rapporte plus d'1 milliard d'euros. Mais nous ne taxons plus l'argent qui sert à financer les entreprises en France. Comme le Parlement l'a souhaité, un comité composé d'experts et de personnalités qualifiées, dont des parlementaires, effectuera le bilan de cette réforme.
Voilà donc Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Alors l'Élysée précise ce soir qu'il n'y aura pas de retour à l'impôt de solidarité sur la fortune. Marlène Schiappa, en fait, a été recadrée ce matin en Conseil des ministres. C'est ce qu'a appris France Info auprès de l'Élysée. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes s'était dit prête, on l'entendra tout à l'heure, à proposer de rétablir l'ISF. Nous ne détricoterons rien, pas facile à dire, hein, de ce qui a été fait depuis 18 mois, donc lancé Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Audrey Goutard, l'affaire semble entendue hein, sur l'ISF.
Mais en même temps, vous avez entendu le Premier ministre, il est précisé de toute façon qu'il y aura une évaluation de l'IFI, de ce nouvel impôt qu'il a expliqué là à l'Assemblée.
C'est sur la fortune immobilière.
La fortune, donc cet argent qui dort en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un problème de dialectique presque. C'est-à-dire que quand le Premier ministre s'exprime de cette façon-là, on peut comprendre ce qu'il dit, mais il faut quand même avoir fait presque des études d'économie pour arriver à capter exactement la simplicité de son propos, enfin le propos. C'est-à-dire que là, en gros, il dit voilà, on taxe l'argent qui dort, on ne taxe pas l'argent qui bouge, l'argent qui est investi dans l'économie. Et il dit, il va y avoir une évaluation. Mais en même temps, effectivement, on recadre la ministre en disant, bah non, on ne touchera plus à rien, on ne détricotera rien.
Pas facile à dire, hein, vous avez
voilà,
dit.
Voilà, pas facile à dire non plus.
Détricoter.
Voilà, alors qu'effectivement, on venait de préciser, le Premier ministre venait de préciser qu'il allait y avoir une évaluation. Donc alors, tout ça est très complexe et je ne sais pas ce que les Français peuvent en comprendre.
Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'il y a une forme de flottement autour du sujet? Là, pour le coup, la messe est dite, hein, l'Élysée dit c'est non ce soir.
Moi, je pense qu'il n'y a aucune forme de flottement dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Après, ce qui est assez sidérant, c'est que de toute façon, indépendamment de la justification de la méthode sur le fond, Emmanuel Macron ne voit pas qu'il va devoir lâcher du lourd sur le terrain symbolique. Il a déchaîné, mais c'est en quelque sorte, il a touché à des tas de vaches sacrées françaises et la propriété, parce que avoir maintenu l'IFI était touché à une vache sacrée française. Les Français sont plus attachés à la propriété que ne le sont les Allemands ou les Américains. Par exemple, l'impôt sur la fortune, on vit dans un pays égalitaire. Moi, je le disais, supprimer l'ISF est une absurdité. On grille un capital politique de fou sur cette question-là, alors qu'on peut neutraliser ces aspects les plus dérangeants. Et Une fois que je vous ai dit ça, je pense aussi que l'ISF est un très mauvais impôt. Mais là, Emmanuel Macron, il a tellement déchaîné les vaches sacrées françaises, il a tellement pris la posture avantageuse du toréador en habit de lumière, que là, il a un troupeau de vaches enragées face à lui. Et il faudra qu'il cède. Et ce qui est incompréhensible, comme le soulevait Audrey, c'est que le « en même temps » du « on entend un Premier ministre qui dit « il y a un dispositif d'évaluation », des membres de la majorité qui dit « il faudrait quand même lâcher quelque chose » et inflexible, on ne détricotera rien. Malheureusement, je pense qu'Emmanuel Macron, qu'il le veuille ou non, sera amené à le faire. Alors même que ça n'a plus beaucoup, que ces mesures-là auraient pu avoir un sens.
Virginie Le Guay, est-ce que c'est réel? Au fond, est-ce qu'il y a eu une sorte d'amorce de début de débat autour de cette question depuis ce matin?
Il y a peut-être eu un débat dans l'entourage du président de la République, mais moi, je suis absolument sidérée par cette communication erratique, contradictoire, incompréhensible. À trois jours aujourd'hui, on est à trois jours d'une manifestation qui, si elle se répète comme elle s'est déroulée samedi dernier, peut produire n'importe quoi. Et je ne sais pas quel sentiment l'emporte quand je vois ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas ou ce qu'Emmanuel Macron a dit en Conseil des ministres, mais surtout pas devant les Français qui, en fait, attendent qu'il s'exprime. Il aurait même dû, peut-être le jour même de son retour du G20 d'Argentine, parler directement le soir même aux 20h, comprendre que la France avait été saisie par les images de samedi dernier, comprendre qu'il y avait de l'émotion, de l'inquiétude, et comprendre que ce mouvement-là n'était pas qu'un mouvement radicalisé et infesté parce que ses amis parlent de l'extrême sous la main droite. Il aurait dû mesurer la gravité de la situation. On est mercredi, il ne la mesure toujours pas, et la communication se borne à être, oui, on reste quand même droit dans notre fil, on peut lâcher un peu, alors le moratoire, personne n'y a rien compris, surtout qu'aujourd'hui, il semblerait que ce moratoire soit un abandon définitif. L'ISF, il fait semblant de dire, on va évaluer pour voir ce que ça donne ou ce que ça donne pas, mais dans le fond, il ne veut pas y revenir. Mais là, on est quasiment à l'agonie d'un système, c'est-à-dire qu'il va être obligé de lâcher beaucoup plus que ce qu'il imagine encore aujourd'hui.
Un petit peu au bout du voyage, là.
Alors, il est à bout de souffle, et c'est une figure de style ou une rhétorique de style que de dire oui, ben non, mais je m'accroche encore bien dur à tout ce que j'ai fait. Il s'accroche plus à rien, tout est en train de se défaire sous ses pieds.
David Bosmorin, vous allez avoir la parole dans un instant. Je voudrais avoir le regard de l'homme de communication que vous êtes sur cette séquence extrêmement compliquée et contradictoire sur l'impôt sur la fortune. Tout d'abord, permettez-moi le rappel de l'info à 20h10 sur France Info avec vous, Diane Ferchit.
Pas de suspension, pas de moratoire. La hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier est annulée, précise ce soir l'Élysée, joint par France Info. Devant l'Assemblée nationale aujourd'hui, le Premier ministre a déclaré qu'à défaut de bonnes solutions, le gouvernement renoncerait à la mesure. Hier, il avait annoncé sa suspension pour 6 mois. Édouard Philippe, qui s'est également adressé aux casseurs, « Je peux entendre la colère, mais pas accepter la violence », a-t-il prévenu. L'Élysée craint un mouvement d'une grande violence samedi à Paris. Les syndicats lycéens appellent à une mobilisation générale demain, alors que 200 établissements étaient encore bloqués ou perturbés aujourd'hui. Les lycéens s'opposent aux réformes de l'éducation nationale. Certains rassemblements ont dégénéré. Deux jeunes dans le Loiret et le Val d'Oise ont été touchés par des tirs de flashball des forces de l'ordre. À Grenoble, les parents d'une adolescente blessée au visage également par un tir de flashball hier ont porté plainte. Des manifestations d'agriculteurs à venir toute la semaine prochaine. Différentes dates sont prévues par département. Ils réclament notamment la mise en œuvre des ordonnances de la loi alimentation. Elles devaient être présentées ce matin au Conseil des ministres. Elles ne le seront finalement qu'au début de l'année prochaine. La présidente de la FNSEA précise qu'ils ne rejoindront pas le mouvement des Gilets jaunes, évoquant des problématiques spécifiques. Les émissions de CO2 repartent à la hausse dans le monde en 2018, annonce d'un consortium de chercheurs à la COP24. Elle se tient en ce moment à Katowice, en Pologne. Une hausse pire encore que l'an dernier. Principaux responsables, la Chine, l'Inde et les États-Unis.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je vous le disais à l'instant, le chef de l'État a vraisemblablement recadré Marlène Schiappa en Conseil des ministres à propos de l'impôt sur la fortune, mais pas seulement. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, invitée hier soir sur France 3 de l'émission spéciale La France fracturée, interrogée sur notamment la suspension des hausses de taxes sur les carburants, s'est livrée à un exercice d'autocritique gouvernementale. On l'écoute.
Moi, je trouve que effectivement, le gouvernement était trop long à répondre. On a apporté une réponse peut-être dans des termes trop techno. Je vous traduis le Édouard Philippe. Ça veut dire que si on ne trouve pas de solution pendant ces grandes consultations citoyennes dont chacune et chacun devra s'emparer, eh bien, on arrêtera à ce moment-là et on mettra une croix sur cette hausse des taxes.
Voilà, donc c'est l'information qui arrive en direct. Hein, à l'instant, la hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier, eh bien, tout simplement, est annulée. On vient de l'apprendre. Pas de suspension, pas de moratoire. La hausse sur les carburants au 1er janvier donc annulée. C'est ce que précise à France Info ce soir l'Élysée. Mardi, Édouard Philippe avait évoqué un moratoire de 6 mois sur la hausse de ces taxes. Mercredi, devant les députés, le Premier ministre avait expliqué que le gouvernement renoncerait définitivement à la hausse s'il ne trouvait pas les bonnes solutions. David Bosmorin, apparemment, nous sommes là au cœur d'une séquence de communication élyséenne avec des sortes de correctifs ce soir de la part de l'Élysée, mais sans entendre le président de la République en prise directe.
C'est exactement ça. On a l'impression qu'en plus, la séquence avec Marlène Schiappa est assez symbolique, puisque on s'est servi de son image comme s'il y avait eu un casting à l'intérieur du gouvernement. Jeune femme, franc-parler, accessible, qui passe bien. Et là, tout à coup, c'est ce que vous disiez, le gouvernement, il se met un peu en mode avion, parce que d'abord, il envoie un message d'inflexibilité. Ensuite, finalement, ça devient l'adaptabilité. Et puis finalement, on va annuler. On envoie des émissaires, comme en temps de guerre, ce qui est quand même assez symptomatique. Et on ne sait plus réellement qui est dépositaire de la parole.
Vous diriez que c'est de la navigation à vue
du gouvernement.
Non, mais c'est de la perte de contrôle.
Jean-Sébastien Ferjou.
Là, ça relève de la perte de contrôle. Ça fait 3 semaines qu'il nous explique que il faudra mettre... Pourquoi le Premier ministre, encore cet après-midi, maintient que c'est un moratoire? Enfin, là, quand même, que le président et le Premier ministre ne soient pas d'accord, et je ne sais pas si Emmanuel Macron va pouvoir longtemps expliquer... Alors, on voit bien que les Français, il peut toujours leur dire « je suis votre chef », il ne se comporte pas comme le général de Villiers, il ne se contente pas de tourner les talons et de renoncer à leur position. Mais là, maintenant, c'est au niveau de son propre gouvernement, de sa propre majorité. Il faut quand même qu'il ouvre les yeux. Il y a, au sein de sa majorité, des gens qui sont tétanisés par sa rigidité, c'est-à-dire des gens qui continuent à croire à l'intérêt de la politique menée, mais qui considèrent aussi, et c'est ce que disait très bien tout à l'heure Virginie Le Guay, que d'une certaine manière politiquement, c'est trop tard. Vous savez, quand vous avez grillé tout votre capital politique, que vous êtes à découvert, vous commencez à avoir des adios. Eh bien, il faut tout de suite agir, parce que les adios, sinon, ça devient une spirale infernale. Et on est exactement dans cette situation-là, politiquement, à l'heure actuelle.
Alors, je reprécise, merci Jean-Sébastien, je reprécise cette double information en exclusivité sur France Info. C'est l'Élysée qui l'annonce ce soir sur France Info. Il n'y aura pas de retour, je le rappelle, à l'impôt de solidarité sur la fortune, la mécédite concernant l'ISF, et en même temps la hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier est tout bonnement annulée. Audrey Goutard, c'est quand même une information extrêmement surprenante ce soir, parce que tout au long de la journée, je rappelle qu'il y a eu un débat devant la représentation nationale avec le Premier ministre en première ligne.
Oui, alors...
qui ne disait pas ça, hein.
Qui ne disait absolument pas ça, mais en même temps, je ne sais pas si dans le journal Le Monde, il y avait de ce soir, il racontait justement les coulisses de cette semaine au sein du pouvoir, et il racontait que dans le discours d'Emmanuel Macron, il y avait la phrase de l'annulation de la taxe, et cette phrase, au moment où Emmanuel Macron a fait son discours, il ne l'a pas intégré dans son discours, alors que la phrase était bien écrite, bien rédigée dans le discours. Ça montre quand même quelque chose d'intéressant, cette espèce d'hésitation, de valse d'hésitation, de flottement et de discussion que raconte Le Monde aussi, très en coulisses, de discussion entre des différents membres du gouvernement pour, contre, et Emmanuel Macron qui hésite, qui jusqu'au dernier moment hésite. Et là, finalement, voilà, France Info donne la... L'issue de cette valse d'hésitation, c'est l'abandon.
Virginie Le Guay, nous observons cette vie politique depuis de longues années. Permettez-moi de le rappeler, vous et moi,
vous avez raison.
Nous tous autour de la table.
Vous moyennement galant, Jean-François.
C'est même un peu vexant, mais enfin, j'accepte ça volontiers.
Je souligne notre expérience collective
en la
matière.
C'est vrai, nous connaissons depuis très longtemps,
voilà.
C'est vrai.
Vous êtes surprise par ces revirements et ces mises au point soudaines, alors que le débat se déroulait relativement tranquillement tout au long de la journée, et depuis hier d'ailleurs. depuis les annonces d'Edouard Philippe.
C'est-à-dire que il y avait quelque chose au début de ce quinquennat dans la personnalité d'Emmanuel Macron, d'étincelant. Il était arrivé, il n'avait pas 40 ans, il n'avait jamais été élu, ministre très peu de temps, et il promettait beaucoup. Et il avait beaucoup promis pendant sa campagne, notamment une république exemplaire, je ferai ce que les autres n'ont pas fait, la bienveillance, enfin, il s'était vraiment engagé à rénover de fond en comble et le pays et la vie politique. 18 mois après, je dois dire que je suis absolument sidérée de voir que ce jeune président, alors peut-être que c'est ça la difficulté, c'est la jeunesse, c'est l'orgueil, c'est l'entêtement, c'est la fierté, c'est le désir absolu de ne pas reconnaître qu'il faut céder et qu'il faut céder beaucoup, parce que plus on attend, plus on cède. C'est cette espèce d'incapacité à se mettre devant un échec, parce que c'est un échec, il peut le raconter comme il veut, il pourra le re-raconter indéfiniment comme il veut. Là, il est l'échec de ses promesses, l'échec de ce qu'il avait annoncé aux Français. Finalement, le mot qui revient tout le temps dans ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, c'est injuste, l'injustice. Il a fait quelque chose ressenti comme injuste. Et dorénavant, tout ce qu'il pourra faire, je ne sais d'ailleurs même pas s'il pourra faire quoi que ce soit, sera jugé à l'aune de ce mot-là. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Oui, oui. Et on voit bien le débat sur l'ISF, le débat sur la hausse de la CSG, la baisse des APL, tout ça, la baisse des, la hausse des carburants. Alors ceux qui ont besoin de leur voiture tous les jours pour aller travailler, ceux qui n'en ont pas besoin, ceux
ça
qui
a traîné, vivent... ça a duré cette histoire. Hein, ça fait des semaines que ça
finalement,
dure.
Finalement, la revendication majeure et la frustration majeure de ceux qui sont dans la rue, c'est l'injustice. Nous, on est maltraité alors que d'autres ont été très bien traités. Et ça, il n'a pas résolu cette équation-là. Et en aucun cas, il n'a réglé ce qu'il avait promis de faire, c'est-à-dire il n'a réconcilié le peuple avec ses dirigeants et lui-même.
En termes d'annonces, David Bosmorin, ce sont quand même deux annonces majeures qui sont données en exclusivité sur France Info ce soir. Ne pensez-vous pas qu'il eût été plus simple de commencer par ça? En termes de communication? Voir au-delà.
Oui, alors peut-être même en termes de politique. Là, on n'est plus dans la communication. Ce qui est symptomatique, c'est que l'essence, in fine, c'était un symbole et que ça a agrégé autour de ce symbole, ça l'énergie en général, parce que le gaz a augmenté, ça a agrégé également l'ISF, la CSG et tout ce qui est paru comme qui est perçu comme une mesure inégalitaire. C'était le symbole de trop et c'est ce qui a créé finalement le débordement. En même temps, là où il y a un problème, c'est que ça interroge aussi sur la question très française de l'homme providentiel. Et existe-t-il encore, finalement?
Vous voulez dire qu'il n'apparaît pas quand on apprend ces nouvelles aussi importantes? On aurait besoin d'une incarnation d'Emmanuel Macron annonçant...
L'élection présidentielle, on sait qu'elle est incarnée. Ouais. Plus personne ne va voter aux législatives. Donc, de toute façon, on sait qu'il y a un hiatus entre les deux scrutins.
Allez, 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
La hausse des taxes sur les carburants n'aura pas lieu au 1er janvier. Elle est annulée, précise ce soir l'Élysée à France Info, excluant toute suspension moratoire. Il n'y aura pas de retour à l'ISF. Emmanuel Macron l'a, lui, précisé en Conseil des ministres. Il pourrait y avoir toutefois des adaptations si besoin. La mesure est dans le collimateur des manifestants. L'Élysée qui s'attend à un mouvement d'une grande violence samedi à Paris pour l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. Il estime que les remontées du terrain sont extrêmement inquiétantes. Devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a prévenu les casseurs. Nous serons intraitables. Et les Gilets jaunes poursuivent leurs actions ce soir avec des blocages de dépôts pétroliers au Mans par exemple ou encore à la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Conséquence, des stations-service sont à sec, principalement en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire et le Sud-Est. Mais la situation devrait revenir à la normale d'ici 48 heures. Un professeur tué par un ancien élève. Les faits se sont produits à la mi-journée sur l'esplanade de la Défense dans les Hauts-de-Seine. Ce professeur d'anglais d'une université privée de Courbevoie a été poignardé à la gorge. Une dizaine de coups de couteau assénés par un ancien élève, l'homme âgé de 37 ans a pu être interpellé. Les funérailles de George Bush, père aux États-Unis, le 41e président des États-Unis, dans la cathédrale nationale de Washington. Donald Trump ainsi que quatre de ses prédécesseurs sont venus lui rendre un dernier hommage. Les dignitaires étrangers étaient également nombreux dans l'Assemblée. L'ex-ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine représentait la France.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
En tous les cas, dans cette séquence en évolution, si je puis dire, eh bien, Édouard Philippe permet à Emmanuel Macron de rester en retrait. Il y a eu ce matin un Conseil des ministres. Tout a été dit sans doute lors du Conseil, ou pas d'ailleurs, puisqu'apparemment ces décisions sont survenues dans la journée, en cours de route, en marchant, si je puis dire. Le chef de l'État qui avait d'ailleurs lancé ce matin, donc au Conseil, un appel au calme, comme l'a évoqué Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, au sortir du Conseil des ministres.
Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il y en a assez que certains jettent de l'huile sur le feu. et ne soit pas clair. Lorsqu'on aspire, ou parfois à plus haute fonction de l'État, on aspire à sa stabilité et à la paix et l'ordre public. Et donc on en appelle à chacun, aux forces politiques, aux forces syndicales, au patronat, pour que l'appel soit clair et explicite au respect de l'ordre républicain.
Jean-Sébastien Ferjou, je rappelle que l'Élysée redoute, je cite, un mouvement d'une grande violence samedi à Paris. Cet appel au calme n'a rien d'anodin.
Non, bien sûr, on ne peut, sur le fond, que le souhaiter, que le calme soit maintenu, qu'il n'y ait pas de violence et surtout qu'il n'y ait pas de mort, parce qu'on en est quand même arrivé là aujourd'hui. Le sondage qui est sorti ce soir, le sondage Elab, qui montre qu'il y a quand même 37% des Français qui disent qu'ils comprennent la violence, montre que le mauvais génie est sorti de la bouteille. Il y a un désir latent de la violence dans ce pays, que les gens le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Maintenant, je trouve que les appels au calme lancés par Benjamin Griveaux ou Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée nationale, quand ils parlent de factieux, sont quand même dans une confusion qui est scandaleuse. Ça n'est pas la même chose. Je n'ai entendu aucun responsable politique appeler à la casse et appeler à la violence, faire la confusion entre la casse qu'on a constatée et quand même le fait de constater qu'il y a une revendication politique majeure dans ce pays. On ne peut pas faire la confusion entre les deux, parce que sinon il fallait pas annoncer l'annulation de la hausse des taxes, parce qu'on ne sait même plus où se tient le gouvernement aujourd'hui. Quelle est sa posture politique aujourd'hui? On a l'impression que si on n'est pas exactement calé sur la même posture qu'eux, alors on est factieux. C'est insoutenable.
David Bosmorin, je vois que vous voulez réagir. C'est la boîte de Pandore, c'est ça?
Oui, puis il y a un problème, c'est-à-dire que, en effet, là, ils ont annulé, c'est-à-dire que finalement, la violence va s'imposer comme étant le recours ultime, comme l'usage lorsqu'on veut défaire ou détricoter donc quelque chose. C'est ça qui pose problème, parce que lorsqu'on a eu les manifestations pour les retraites, il y a eu 1,5 million de personnes dans les rues, c'est passé. Et là, avec 100 à 150 000 personnes, enfin d'après des chiffres qui sont peut-être inexacts, c'est l'entropie la plus totale dans le pays. Ça pose problème.
André Gouttard, intéressant ce qui est dit sur la mobilisation, sur les chiffres au fond.
Oui, des chiffres qui sont assez faibles, mais qui les services de renseignement qu'on a pu avoir et toutes les informations qu'on a pu avoir montraient que des chiffres de mobilisation faibles, mais effectivement des gens mobilisés extrêmement violents, enfin qui rechercheraient samedi à commettre de la violence. Donc ça, c'est le problème. Et effectivement, je suis complètement d'accord. À partir du moment où on recule parce qu'il y a la violence, ça veut dire que la violence est la solution pour faire reculer un gouvernement. Donc c'est la problématique. Et d'ailleurs, Édouard Philippe, d'après nos informations, a fait valoir ça auprès du président de la République en disant ne lâchons pas pour l'instant parce qu'effectivement il y a ce risque-là.
Il faut quand même choisir. Expliquait en disant que politiquement il faut à un moment céder parce qu'il n'y a plus d'autre choix.
Absolument.
Je suis d'accord avec vous, mais ça n'est pas récent. Oui. La violence a toujours été malheureusement un moteur de l'histoire politique en France comme ailleurs. Mais on peut pas à la fois souhaiter.
Samedi, le risque, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous disiez que vous en avez ouvert une boîte nauséabonde. À partir de samedi, on aura non seulement des gilets jaunes dans la rue, mais on aura aussi des jeunes lycéens de 15 ans. Vous avez vu qu'aujourd'hui, deux lycéens ont été blessés par des flashballs.
On va y venir ensuite dans le détail. Oui, absolument. Mais
voilà,
vous avez
donc
raison.
Pour dire qu'effectivement, c'est de la violence surajoutée à de très jeunes manifestants.
Virginie Le Guay, les deux annonces faites ce soir sur France Info en exclusivité par l'Élysée. Pas de retour à l'impôt de solidarité sur la fortune et des hausses de taxes sur les carburants annulées et non plus suspendues au 1er janvier. Est-ce de nature à faire rester chez eux, vous savez, les gilets jaunes raisonnables, comme les a désignés M. Castaner en audition devant la commission des lois du Sénat?
Je ferai plusieurs observations. Alors, une peut-être sur le mot raisonnable. Ça sous-entendrait que ceux qui vont aller manifester samedi ne sont pas raisonnables. Et ça s'ajoute à l'infinie et très longue liste d'insultes, d'attaques contre ces gilets jaunes. Il faut se souvenir de tous les termes qui ont été utilisés par l'exécutif, par les ministres, à propos de ces gilets jaunes, qui ont tour à tour été qualifiés de beaufs, de conducteurs de bagnoles.
Jacquerie.
Que dites-vous, David Bachemorin?
De peste brune, pour ne reprendre que l'expression de Gérald Darmanin. Alors, aujourd'hui, on voit que le gouvernement cède, et encore cède, à contre-cœur, cède dans le chaos, cède dans la contradiction, et cède 3 jours avant, mais il aurait cédé, et il aurait, il y a 15 jours, eu le courage de dire, écoutez, vous avez gagné, je vous ai entendu, non seulement je vous ai entendu, mais je vais vous concéder des choses. C'est-à-dire, il faut reconnaître quand, tout d'un coup, le rapport de force vous est défavorable. Emmanuel Macron ne donne toujours pas l'impression de le reconnaître.
Vous voulez dire que c'était une évidence, ça aurait dû se produire il y a 15 jours, et puis la
messe
était dite?
Mais quand on a un conflit social, qui, en plus, celui-là est très inédit, c'est un conflit fait de groupes hétéroclites qui sont disséminés dans toute la France et qui ne sont absolument pas contrôlés par les partis politiques. Quand on l'a eu comme ça, au début, il était tout à fait temps encore d'arrêter les choses. Aujourd'hui, le conflit s'est radicalisé, il a été travaillé de l'intérieur, les gens sont à bout de nerfs, ils se sentent provoqués. Donc là, il n'y a plus rien à faire que de reculer et on n'est qu'au début des reculades.
Allez, nous poursuivrons sur l'ensemble de ces sujets et nous évoquerons notamment le cas des lycéens dans la deuxième partie. Désinformé de France Info, ce sera juste après la météo et le rappel de l'info. À tout à l'heure.
Microbiote, une exposition inspirée du best-seller Le charme discret de l'intestin à la Cité des sciences et de l'industrie avec France Info. Près de 100 milliards de bactéries vivent dans votre intestin. Venez découvrir cet univers microscopique qui vous protège et qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Microbiote, une exposition pour toute la famille à la Cité des sciences et de l'industrie jusqu'au 4 août 2019 en partenariat avec France Info.
Toutankhamon, le trésor du pharaon, l'exposition des 100 ans. Une exposition immersive qui réunit 150 objets originaux issus de la tombe de Toutankhamon, dont des trésors inestimables exposés pour la première fois en Europe depuis 50 ans. Toutankhamon, le trésor du pharaon, à partir du 23 mars à la Grande Halle de la Villette.
En partenariat avec France Inter.
France Inter, une radio de Radio France.
France Info Météo. Avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
Et les prévisions signées Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
La perturbation arrivée par l'ouest cet après-midi va se décaler vers les frontières de l'est en cours de nuit. Les pluies associées seront localement soutenues. Demain, cette perturbation sera bloquée par le massif jurassien et les Alpes du Nord, apportant de la neige au-dessus de 1800 mètres, prévoyez 10 à 20 cm. L'ensoleillement sera encore généreux autour de la Méditerranée. Mistral et Tramontane seront aussi de la partie avec des rafales de 60 à 80 km par heure. Et partout ailleurs, votre journée sera bien triste, hein, sous un ciel très nuageux, avec en prime de faibles pluies ou bruines. Côté température, les minimales au lever du jour seront comprises entre 9 et 13 degrés. Les maximales, toujours douces pour la saison, évolueront de 11 à 19 degrés.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir, Augustin Arrivé.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. La hausse des taxes sur les carburants n'est plus gelée, elle est totalement supprimée. Annonce ce soir de l'Élysée qui précise en revanche qu'Emmanuel Macron n'a aucune intention de rétablir l'ISF suite du mouvement des Gilets jaunes. Édouard Philippe se présentait cet après-midi devant les députés à l'Assemblée nationale. Simon Le Baron, vous avez suivi ces débats pour France Info. Un vote symbolique vient d'avoir lieu avec une large adhésion pour l'exécutif.
Oui Augustin, 556 votants, 552 suffrages exprimés, 358 pour et 194 contre la déclaration du gouvernement sur la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat. La majorité fait donc le plein puisque les députés La République En Marche plus Modem sont 355 au total. Faites le compte, 358 pour, ça fait donc même trois voix supplémentaires qui proviennent probablement du groupe UDI Agir. Vous savez ce qu'on appelle les constructifs. C'était l'un des enjeux du scrutin. Le Premier ministre Édouard Philippe allait-il réussir à créer, à susciter l'unité, l'adhésion de sa majorité autour de ces annonces? Eh bien, la réponse est oui, ce soir, mais ce vote, sans surprise, hein, qui de toute façon n'était pas contraignant et n'engageait pas la responsabilité du gouvernement, eh bien ce vote n'efface pas évidemment les divisions profondes entre le gouvernement, la majorité et les oppositions politiques qui se sont exprimées tout au long de l'après-midi dans l'hémicycle et pour qui les annonces d'Édouard Philippe hier sont très loin d'être suffisantes. La crise n'est donc pas terminée ici à l'Assemblée, pas plus que dans la rue.
Simon Le Baron du service politique de France Info, alors que paradoxalement ce front-là de la contestation, celle des Gilets jaunes, a eu tendance à perdre un peu de terrain aujourd'hui. La quasi-totalité des stations-service du pays devrait être à nouveau approvisionnée d'ici 48 heures. C'est plutôt du côté des lycéens que ça se durcit avec des affrontements extrêmement brutaux avec les forces de l'ordre. Deux élèves ont été hospitalisés, touchés à la tête par des tirs de flashball, l'un dans le Loiret à Saint-Jean-de-Bray, l'autre dans le Val-d'Oise à Garges-lès-Gonesse. Et dans ce dernier lycée, une partie du personnel a dénoncé sur Internet des violences policières excessives. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Il y a également eu des dizaines d'interpellations de lycéens sur tout le territoire. Et puis, il y a les agriculteurs qui se préparent à exprimer à leur tour leur colère. Leur syndicat majoritaire, la FNSEA, appelle à des manifestations toute la semaine prochaine, entre autres pour une application immédiate de la loi alimentation dont l'examen parlementaire a été reporté. Les émissions mondiales de gaz carbonique ont encore augmenté cette année, une hausse de 2,7%. C'est même une accélération par rapport à la hausse de l'an dernier. Statistique alarmante publiée ce soir par un consortium de chercheurs. Ils profitent du sommet international en Pologne, la COP24, pour pointer du doigt en premier lieu la Chine et l'Inde.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités. Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec mon amie Virginie Leguet, journaliste à Paris Match, chef adjoint du service politique, avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico.fr, avec David Bosmorin, communicant et cofondateur de l'agence OPS2. Alors c'était l'une des annonces faites par le gouvernement pour tenter de dénouer la crise. Et Édouard Philippe y est largement revenu aujourd'hui devant la représentation nationale à l'Assemblée. Apparemment, le Premier ministre n'était pas au courant des annonces faites ce soir. Je vous les rappelle en exclusivité sur France Info, à savoir que la hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier est annulée et qu'il n'y aura pas de retour à l'ISF. C'est ce qu'indique l'Élysée à France Info ce soir. Et Édouard Philippe, lui, eh bien, a notamment rappelé devant les députés l'importance à ses yeux de l'organisation d'une grande concertation nationale à la mi-décembre.
L'heure est donc venue d'avoir ce débat, national et local, institutionnel et informel. Un débat qui doit aussi avoir lieu au plus près des Français, sur tous les territoires. Et puisqu'il est difficile de dégager, je l'ai vu, des représentants de ce mouvement, réfléchissons à des formules innovantes qui ne résumeront pas l'organisation des débats, mais qui permettront à chacun d'y prendre part et à tous d'être certains que personne n'en est exclu.
André Goutard, pardon de me répéter, mais au fond, c'est vrai que cet après-midi, hein, qui est un moment de la vie démocratique de ce pays institutionnel, avec le Premier ministre qui s'exprime devant la représentation nationale, il en va de même auprès des sénateurs. Au fond, est-ce que ce n'est pas un petit peu, a posteriori, battu en brèche par les annonces spectaculaires qui sont faites ce
Évidemment,
soir?
Évidemment, on se dit que si le Premier ministre avait eu ces éléments en main avant de se lancer dans l'arène de l'Assemblée nationale, la journée aurait été totalement différente. Le discours aurait été totalement différent, évidemment. Et surtout, donc, du coup, on peut s'interroger, c'est à quel moment le président et l'Élysée décident de faire les annonces que vous venez de donner. C'est-à-dire, est-ce que c'est, donc, après toute cette journée parlementaire, effectivement, tout à coup, ils se disent, non, là, c'est plus possible, bon, allez, on lâche. Enfin, c'est très psychologiquement, un jour on le saura parce qu'on revient toujours dans les coulisses de l'histoire, mais c'est effectivement un moment important.
Oui, Jean-Sébastien Ferjou, ce Premier ministre, et c'est la règle, hein, dans la Ve République, sert quelque part de rempart au président, mais en même temps, il est tenu informé de façon très relative.
Pour servir de rempart, encore faut-il qu'il y ait encore une unité de sens, à minima, entre le président et le Premier ministre.
Vous dites qu'il n'y est plus ce soir?
Bah écoutez, c'est quand même perturbant de voir le déroulé de cette journée. Je pense qu'Édouard Philippe, on peut lui reprocher sa rigidité, on peut peut-être lui reprocher, ou même certainement lui reprocher un manque d'instinct politique, un manque d'empathie avec les Français, mais enfin, il est cohérent. Là, la journée d'Emmanuel Macron, ce matin, il recadre ses ministres en Conseil des ministres pour dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il n'y aura pas de détricotage, que l'ISF sera maintenu. On l'apprend en milieu d'après-midi par des indiscrétions livrées à des journalistes vers 17-18 heures. Et à 20h, on apprend que l'Élysée annonce l'annulation des mesures, enfin des taxes sur la hausse de l'énergie. Donc le résumé de la journée, c'est quoi? C'est sur les riches. Alors ça, hors de question de céder, mais sur l'environnement, on cède. Parce que quoi qu'on pense de l'ISF sur le fond, Emmanuel Macron quand même devrait se soucier de la cohérence de son action, de la cohérence de ses journées. Quand même, quand on fait 1+1, à la fin, ça fait 2. Et là, il y a eu deux moments dans cette journée, deux moments qui produisent encore une fois une espèce de discours, enfin, qui alimente, à mon sens, la crise politique.
Alors, Virginie Le Guay, si on regarde dans le détail sur la hausse des taxes sur les carburants qui est donc annulée ce soir, information France Info, finalement, il n'a jamais été dit qu'elle ne serait jamais. Il y avait un temps de réflexion qui s'ouvrait, on laissait la porte ouverte. Et sur l'ISF, personne n'a dit qu'au fond, qu'on allait revenir en arrière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas forcément, fondamentalement, dans le texte, une contradiction, mais il y a un changement de cap?
Moi, je vais vous dire une chose, je ne sais même pas quel est le cap aujourd'hui. Je ne sais même pas si Emmanuel Macron a la moindre idée de comment il va passer la journée de demain jeudi, la journée de demain vendredi, jusqu'à la manifestation de samedi. Il donne l'impression d'être comme un soldat enfermé dans son bureau, d'avoir autour de lui des barricades, de pas regarder ce qui se passe à l'extérieur et de temps en temps lâcher quand il est vraiment à bout. Mais moi, je trouve que là, vraiment, il y a quelque chose d'incroyablement manqué. Parce qu'Emmanuel Macron, très vite, au début de ce quinquennat, a eu l'étiquette de président des riches. Et là, il avait l'occasion, mais il y a 15 jours, hein, je parle pas d'aujourd'hui, il y a 15 jours, peut-être 3 semaines, de renouer avec les Français, de leur montrer qu'il était capable de les entendre, mais pas les mêmes. Ceux qui sont dans la rue, c'est-à-dire la France, qu'on appellera les classes moyennes, les classes laborieuses, comme il les appelle, ou les classes modestes. Il avait l'occasion de leur dire, mais attendez, je ne travaille pas que pour les très riches ou les riches, je vous écoute et je vous entends et je vais vous accorder des choses puisque vous me le demandez. Et du coup, son image s'en trouvait incroyablement rééquilibrée. Au lieu de ça, je ne sais pas comment il n'a pas entendu ça, il s'est lui-même enfermé dans une logique qui n'en est plus aujourd'hui.
Alors même si vous dites, Virginie Le Guay, c'est quelque part un petit peu trop tard, ça aurait dû se produire il y a 15 jours. David Bosmorin, vous pensez que forcément de telles annonces doivent être suivies d'une prise de parole publique de la part du président?
Alors, il y a aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement se confronte d'un seul coup à la réalité. Je crois que c'est Jacques Lacan qui dit le réel, c'est quand on se cogne. Donc, le gouvernement se cogne. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il recule, ou en tout cas, il cède, enfin, je sais pas comment appeler ça. Ce qui est stupéfiant, c'est l'absence totale d'anticipation. C'est-à-dire qu'il voit le volcan arriver et il se passe rien. La spirale belliqueuse qui s'ensuit. Et j'ai lu ça quelque part, j'ai trouvé ça juste. On passe de la colère à la rage. Et face à la rage, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on cède.
Vous êtes d'accord avec ce point de vue, Audrey Goutard?
Moi, j'aimerais bien qu'on ramène à des chiffres, parce que je pense que le gouvernement aussi a été peut-être fait piéger par les chiffres. Quand on regarde les chiffres, il y a 80% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes. En même temps, lorsque vous regardez les mobilisations depuis maintenant plus d'une semaine, c'est 10 000 personnes sur le territoire. Ça fait 70 personnes par département. C'est caricatural et les Gilets jaunes, j'espère, ne m'en voudront pas de dire ça parce que je pense qu'il y a un vrai soutien psychologique des Français et il y a vraiment des gens qui souffrent et qui ont envie d'exprimer quelque chose au travers de ce mouvement des Gilets jaunes. Néanmoins, je pense que le gouvernement a fait un calcul en se disant, après tout, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les stats, eh ben, c'est pas tant de gens que ça. Et ils ont pensé qu'ils pourraient gratter du temps, si vous voulez, en se disant, à un moment donné, ça va se calmer.
Jouer le pourrissement.
Jouer ce pourrissement. Et c'est vrai que le mouvement a pourri un peu. Sauf que, ils n'ont pas pris en compte quelque chose que nous, journalistes même, nous n'avions pas pris en compte. C'est le développement de cette violence.
Allez, on va en parler justement dans un instant. Ce sera tout de suite à 20h40 sur France Info, après le rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
Le gouvernement ne renoncera pas à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Emmanuel Macron s'y est opposé en Conseil des ministres. Le président de la République a d'ailleurs recadré Marlène Schiappa, sa secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Elle s'était dite prête à rétablir l'ISF si le nouveau dispositif n'était pas concluant. Nous ne détricoterons rien de ce qui a été fait depuis 18 mois, a affirmé Emmanuel Macron. Et la hausse des taxes sur le carburant au 1er janvier est, elle, annulée, précise ce soir l'Élysée à France Info. Il n'est plus question ni de suspension ni de moratoire sur la question. Dans la Drôme, un chauffeur routier est en garde à vue. Il a tenté de forcer un barrage de gilets jaunes sur la 7. Les gilets jaunes qui poursuivent leurs actions. Plusieurs dépôts pétroliers restent bloqués ce soir. Après les violences du week-end dernier, de nouvelles condamnations, notamment à Tours. 6 et 8 mois de prison ferme pour deux manifestants. Ils avaient jeté des projectiles et des bouteilles d'acide sur les forces de l'ordre. 200 lycées à nouveau bloqués, totalement ou partiellement ce mercredi. Troisième journée de mobilisation contre les réformes engagées dans l'éducation nationale. Celle du bac notamment. Deux élèves de seconde et deux terminales ont été blessés par des tirs de flashball, l'un dans le Val-d'Oise, l'autre dans le Loiret. Le procureur de la République d'Orléans a saisi l'inspection générale de la police nationale. Et par peur de nouveaux débordements samedi, les organisateurs de la marche pour le climat à Avignon ont décidé d'annuler l'événement. À Paris, le Téléthon ne pourra pas installer ses quartiers place de la Concorde. Il sera diffusé depuis les studios de France Télévisions.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquilini.
Yann Ferchit évoquait à l'instant les mesures de sécurité. L'Élysée, joint par France Info, s'attend, je cite, à un mouvement d'une grande violence samedi à Paris pour ce que l'on appelle désormais l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. Les remontées de terrain seraient extrêmement inquiétantes avec le resserrement du mouvement sur un noyau dur de plusieurs milliers de personnes qui viendraient à Paris pour casser et pour tuer, je cite bien les propos tenus par l'Élysée à France Info ce soir. Je vous propose d'écouter ce témoignage, celui de Cédric Guémy. Il est l'un des membres des Gilets jaunes libres, vous savez, ceux qui se sont exprimés dans les pages du journal du dimanche que nous avons joint sur France Info ce matin. Il a évoqué, Cédric Guémy, eh bien des menaces dont il a fait l'objet et appelé à ne pas manifesté à Paris. Écoutez ce propos étonnant.
Des membres du mouvement Gilets jaunes libres ont été menacés. Leur intégrité physique était en jeu. Ça a été sur les réseaux sociaux, ça a été sur leur téléphone. Des adresses personnelles qui ont été divulguées à titre personnel, et le mouvement des Gilets jaunes libres le dit. Il est inutile de retourner à Paris pour voir les scènes que l'on a pu voir la semaine dernière. C'est inacceptable. Et samedi prochain, ça risque d'être encore plus dramatique.
Virginie Leguet, des Gilets jaunes porte-parole, sans doute pas représentatif, qui ont dit, ils sont plusieurs à l'avoir fait, avoir été victimes de menaces. Il y a une forme de radicalité qui s'est installée.
Le mouvement a certainement été travaillé ces derniers jours ou ces dernières semaines par ceux qui voulaient s'en servir. Et évidemment, ceux qui les ont travaillés sont dans des positions politiques très extrémistes. Mais je pense qu'il ne faut pas jamais oublier les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'élection présidentielle. Il faut se souvenir du score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour et du score de Marine Le Pen au premier tour et au deuxième tour. Et il faut souvenir que ces électeurs-là, d'une certaine façon, je dis pas que ce sont eux les Gilets jaunes, mais cette France-là, elle se sent aujourd'hui prête à prendre sa revanche, et elle la prendra de la façon la plus extrême et la plus excessive qu'elle pourra, d'autant qu'elle sent en face d'elle un pouvoir qui est en train de s'effondrer vaciller. Sur pied, de s'effondrer, de couler comme un château de sable, et qu'elle se dit, mais il y a comme une ivresse, elle se dit, j'ai obtenu ça, mais demain je peux obtenir encore plus, et après-demain encore plus. Donc jusqu'où ça s'arrêtera?
Ivresse ou inquiétude due à une forme de fragilisation, Jean-Sébastien Ferjou?
Il y a un mélange des deux, comme toujours dans les mouvements de foule, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Virginie Le Guet. Maintenant, ça n'est pas tous les Français. Il y a trois types de violence. Il y a la violence des gens qui théorisent le recours à la violence, un peu comme les terroristes, d'une certaine manière, veulent forcer les gens à choisir leur camp avec des actions extrêmement violentes. Il y a la violence des casseurs habituels, parce que ça, c'est aussi une réalité. Et il y a quand même, on est confronté à un sujet qui n'est pas que lié aux Gilets jaunes, mais à la difficulté de maintenir l'ordre dans ce pays, et puis à la violence de l'exaspération. Après, je ne sais pas pourquoi l'Élysée dit ça. On ne sait plus pourquoi il parle. C'est ça qui est tragique. La gravité de la crise politique à l'heure actuelle, c'est qu'on n'arrive plus à comprendre pourquoi ils parlent. Disent-ils ça dans une espèce de pari pour dramatiser les choses en misant sur le fait que finalement ce sera moins pire, ou parce qu'ils le redoutent réellement? On n'arrive même plus. La crédibilité de leurs paroles est tellement entachée. Vous rendez compte quand même, ouais, Jean-François, que cet après-midi, là, l'annonce de l'Élysée, parce que d'un point de vue démocratique, c'est d'un point de vue républicain, c'est quand même choquant. Les députés ont voté la suspension. Ils ont voté le moratoire des taxes. Et ce soir, le président de la République, par-dessus la tête de sa majorité, par-dessus la tête de son premier ministre, par-dessus la tête de son parlement, décide que non, il annule tout. Je suis désolé, mais celui qui est en train de jeter le chaos dans le pays à l'heure actuelle, c'est Emmanuel Macron. Ça n'excuse évidemment en rien la violence des casseurs et certainement pas les morts. Mais enfin, quand même, celui qui, à l'heure actuelle, jette le pays en direction du pire, et on peut redouter effectivement un bain de sang, oui, les mots sont peut-être abusifs, mais en tout cas vraiment des dérapages, c'est le président, il faut qu'il se reprenne maintenant.
Il faut qu'il se reprenne, vous dites donc Jean-Sébastien Ferjou. David Bosmorin, il a été reproché souvent, cela peut se lire au fil des réseaux sociaux, sur Twitter et ailleurs, que les médias commettraient une forme d'effet de loupe sur les violences qui se produisent à Paris et ailleurs. Est-ce que vous partagez ce point de vue, ou bien il s'agit d'informations classiques et ce sont des mouvements extrêmement réels?
C'est surtout les réseaux sociaux qui ont un effet de loupe et un effet d'hystérisation du mouvement. Alors après, on peut aussi considérer que les réseaux sociaux sont également devenus des médias, et ça, c'est, je dirais que c'est un questionnement à part entière qu'il faudrait d'ailleurs considérer de façon assez, assez sérieuse.
Oui.
Maintenant, c'est lorsqu'on voit que sur Facebook, les messages sont de plus en plus haineux et appellent à la violence. Sur Twitter, n'en parlons même pas. Je pense que les médias, par rapport à ça, enfin, on va dire les médias traditionnels ne vont pas aussi loin.
Audrey Goutard, sur ce point de vue, il faut essayer d'appeler au calme de là d'où nous sommes, des médias, parce qu'au fond, nous donnons la parole aux Gilets jaunes tous les soirs sur France Info. D'ailleurs, ils s'expriment librement sur une libre antenne, et ça se fait ailleurs aussi, partout dans les journaux. Est-ce qu'au fond, le débat démocratique n'est-il pas pollué aujourd'hui par une forme de violence qui échappe à tout contrôle?
Moi, je pense qu'il faut pas vous parler des gilets jaunes. Pour l'instant, les casseurs, il y a évidemment des gens. On voit. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les comparutions immédiates. Vous savez, tous ces procès qui ont eu lieu ces derniers jours où on apparaissait ceux qui avaient été interpellés pendant les manifestations. On voit effectivement que la majorité habite en province, que la majorité sont des gens comme vous et moi, ou des artisans, ou des commerçants, etc. On voit bien que ce sont pas des casseurs professionnels, entre guillemets, ultra-gauche, etc. Ceux-là, soit couraient plus vite, soit effectivement n'étaient pas majoritairement représentatives parmi les gens les plus violents.
Les professionnels sont mieux organisés, hein, c'est bien connu.
C'est clair. Oui. Mais le fait est, si vous voulez, c'est que ces gilets jaunes, très violents, évidemment qu'ils voient, ils voient le discours que nous véhiculons tous, nous médias, etc. Il y a une espèce de sentiment que la France est à feu et à sang. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment les télévisions américaines nous représentent et nous montrent en période révolutionnaire. Hein, pour les étrangers, en tout cas les télévisions conservatrices américaines, nous sommes dans une situation révolutionnaire. Lorsqu'on regarde sur le terrain, nous on envoie nos journalistes sur le terrain qui suivent les gilets jaunes, etc., on se rend compte que, évidemment, ce n'est pas cette situation-là. Que la super-violence dont parlent certains n'est pas celle que l'on voit qui existe sur le terrain. Donc, moi, je pense qu'il faut raison garder à un moment donné. Et c'est vrai que les réseaux sociaux véhiculent, si vous voulez, un propos qui est souvent fake. Il y a beaucoup de fake news. Oui. Que l'on trouve et qui sont véhiculés aussi sur les terrains, sur les ronds-points, etc. Et le danger est surtout là.
D'une certaine manière, c'est pas le sujet, les fake news. Le problème, c'est la crédibilité de la parole publique. Donc,
si Emmanuel Macron lui-même. Fake news, la parole publique ne vaut plus rien. Non, parce que le fake news prend toujours le pas sur la parole publique.
Oui, mais pourquoi ça prend le pas? Ça prend le pas parce qu'il n'y a plus d'émetteurs qui soient crédibles, ni les médias, ni les corps intermédiaires, les partis, les syndicats, ni le président de la République. Mais si, ça a totalement à voir. Et après, sur la situation révolutionnaire, bien sûr que oui, nous sommes dans une situation révolutionnaire. Les révolutions ne sont pas nécessairement violentes. Réellement, regardez comment ça s'est passé dans un certain nombre de cas. Ce ne sont pas que des explosions de violence, ce sont aussi des processus politiques. Il y a une revendication dans ce pays de gens qui disent stop.
Lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on parle avec justement ces gens, les gilets jaunes, dans les ronds-points, etc. Moi, je vois surtout des mères de famille célibataires qui élèvent leurs enfants. C'est pas des révolutionnaires. Elles sont pas là pour casser la République. Elles sont là juste pour avoir un peu d'argent pour faire des cadeaux à leurs enfants. Et je suis pas du tout d'accord avec toi parce que c'est comme ça qu'on se parle. Vous attisez aussi le débat en tenant ce genre de propos. Je ne suis absolument pas d'accord. Je ne vois pas de gens révolutionnaires. Je vois juste des gens désespérés qui n'ont plus de gras, comme on dit, pour pouvoir acheter effectivement le minimum pour leurs gamins. Donc c'est pas
qui ont peur de venir
à Paris parce que justement ils ont peur de croiser ceux qui sont les plus violents.
Allez, c'était important de le rappeler. Vous répondrez dans un instant à ce qui a été dit, Jean-Sébastien Ferjou, mais permettez-moi de donner la parole à Diane Ferchit pour le rappel de l'info à 20h50 sur France Info.
Pas de suspension, pas de moratoire. La hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier est tout bonnement annulée, précise ce soir l'Élysée, joint par France Info. Il n'y aura en revanche pas de recul, pas de détricotage de l'ISF. Emmanuel Macron exclut tout rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Un comité d'experts effectuera le bilan de cette réforme, a déclaré Édouard Philippe devant les députés. L'Assemblée nationale qui approuve ce soir les mesures annoncées par le Premier ministre cet après-midi, notamment l'abandon dans le budget 2019 de la hausse de la taxe carbone et le gel des tarifs du gaz et de l'électricité. cet hiver. Et le ministère de l'Intérieur a recensé 6740 gilets jaunes mobilisés aujourd'hui. Des blocages de plusieurs dépôts de carburant, des barrages filtrants aussi sur certaines autoroutes. Après les dégradations commises sur l'Arc de Triomphe samedi dernier à Paris, 13 personnes, dont un mineur, ont été mises en examen. Trois d'entre elles ont été placées en détention provisoire. L'Élysée dit craindre ce samedi un mouvement d'une grande violence dans la capitale. Un mois, jour pour jour, après l'effondrement de deux immeubles à Marseille, 300 personnes se sont recueillies ce matin près du lieu du drame. Elles ont observé 8 minutes de silence, une minute pour chacune des victimes retrouvées ensevelies sous les décombres. Au Royaume-Uni, les députés examinent le texte de l'accord sur le Brexit avant le vote prévu au Parlement le 11 décembre. Les parlementaires qui accusent Theresa May d'avoir voulu les induire en erreur, ils reprochent à la Première ministre d'avoir initialement refusé de publier un avis juridique sur cet accord, avis qui était susceptible de renforcer leur opposition au texte.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, Jean-Sébastien Ferjou, je vous ai coupé dans votre élan. Répondez à Audrey Goutard, s'il vous plaît.
Et oui, parce que on peut pas laisser dire que essayer de comprendre les racines de ce mouvement, c'est jeter de l'huile sur le feu ou attiser ce mouvement. Quand même, rien qu'écoutons le flash qui vient d'être donné à l'instant. Les immeubles qui s'effondrent à Marseille, un professeur poignardé par un ancien élève sur le parvis de la Défense. Mais les gens, ils sont capables de faire 1 plus 1 égale 2. Ils demandent pas juste du beefsteak. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, Audrey. Vous comprendrez mieux peut-être à la fin du raisonnement. Vous serez pas forcément d'accord, mais peut-être vous le comprendrez mieux. Ils demandent pas juste du beefsteak ou de la brioche, ils sont conscients de ce qui les a menés là. Maintenant, l'intelligence, en quelque sorte, des gilets jaunes, c'est de dire, mais c'est pas à nous de faire le boulot, ce sont les élites qui n'ont plus fait le boulot depuis 20 ans, depuis 30 ans. Quand même, il y a des verrous dans la pensée politique, sur la structure de l'Europe, sur la manière dont le libre-échange fonctionne, mais quand même, les gens, ils sont capables de le voir, que la concurrence loyale que sont censées nous garantir les institutions multinationales, elle ne fonctionne pas dans la réalité. Donc là, le beefsteak, si vous voulez les réduire à ça, qu'ils demandent à la fin du mois, ils sont capables de voir qu'il y a un système politique et économique qui les a amenés là. Les élites ont fait sécession. Les élites ont fait sécession. Elles ne payent plus leurs impôts. Elles ne vivent plus dans les mêmes endroits que le français moyen. Et ben là, on est en train de voir le peuple qui fait sécession à son tour. Si vous ne voyez pas en ça une situation révolutionnaire, mais on s'en fiche, peu importe, c'est 1789 ou n'importe quoi d'autre. Mais si vous ne voyez pas en ça quelque chose de macro-politique et quelque chose qui n'est pas une jacquerie fiscale, alors, vous commettez la même erreur que le gouvernement.
Pour une ultime respiration avant de nous séparer, je vous propose de prendre un petit peu de distance sur les choses, quoique il y en a un à qui la crise des gilets jaunes n'a pas échappé, c'est Donald Trump qui s'est fendu d'un de ses tweets dont il a le secret, je vous le lis. « Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris, eh bien il le dit, oui, soient d'accord avec la conclusion à laquelle je suis arrivé il y a 2 ans. L'accord de Paris est défectueux parce qu'il augmente le prix de l'énergie pour les pays responsables, tout en blanchissant certains des pires pollueurs. » David Bosmorin, ça s'appelle de l'opportunisme.
Ça s'appelle avoir 12 ans, je pense, notamment en politique. Il est quand même hallucinant, ce message. C'est que il a toujours pas digéré ce qui s'est passé pendant les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ça lui reste en travers. Et il faut qu'il profite de la situation. C'est quand même pas très, je trouve. Enfin, c'est pas la posture d'un chef d'État, quand même. Et puis il y a une forme de revanche comme ça. Après, c'est Donald Trump, c'est pas très grave.
Virginie Le Guay, c'est un aspect anecdotique, j'imagine, à vos yeux, ce que me dit Monsieur Trump sur cette crise. Il y a en tous les cas un regard qui est porté hors frontières sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous pensez que cela peut porter préjudice à l'image de ce pays ?
Oui, je pense que les images de samedi dernier qui ont fait le tour du monde et qui ont été regardées, alors probablement, comme le disait Audrey, avec un effet de loupe, parce que les images sont saisissantes, mais elles ne représentent pas ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire. Mais il n'en reste pas moins que ces images resteront gravées et vont avoir d'abord un coût économique très important. Elles en ont déjà un très important et un coût politique très lourd pour Emmanuel Macron. Pour en revenir à la réaction de Donald Trump, je dirais que d'une certaine façon, Emmanuel Macron paye aussi toutes son caractère, en fait, toute la façon qu'il a de considérer que tout le monde doit être un peu à la redresse et que ceux en Europe qui lui plaisent pas, c'est la lèpre. Donald Trump, quand il fait quelque chose de pas bien, il peut pas s'en empêcher. Mais du coup, il récolte ce qu'il a semé, c'est-à-dire une forme d'abord de solitude politique, parce qu'il est pas très soutenu, il est pas très aimé, mais et aussi de de colère, le mot est un peu fort, mais aussi de, voilà, chacun du coup, quand ça va moins bien pour lui, bah, chacun se venge un
peu. Alors je vous rappelle les deux, oui, j'entends bien ce que vous décrivez, hein. Je rappelle tout de même les deux principales informations de la soirée, la hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier annulée et l'Élysée donc qui précise ce soir qu'il n'y aura pas de retour à l'impôt de solidarité sur la fortune, deux informations France Info. Juste un dernier mot là-dessus, Audrey Goutard, elles sont susceptibles à changer un petit peu le cours des événements ou pas?
Franchement, verdict samedi lors de la manifestation. On va voir si, si ces annonces ont un impact direct sur le comportement des gens et sur le fait que oui, ok, ils peuvent effectivement hocher la tête et dire bon bah ok, on a été compris, on aura plus de beurre dans les épinards, comme dirait l'autre. Je dois dire que je doute que ça suffise.
Mais c'est trop tard. Il y a un autre
sujet, je suis d'accord avec ce que disait Audrey sur le côté des gilets jaunes. Mais il y a aussi le sujet de la majorité qui est au bord de la crise de nerfs. Il y a des gens aujourd'hui, des députés qui sont scandalisés de ce que vient de faire Emmanuel Macron. Ils ne comprennent plus le président. Et il y a quand même beaucoup de gens au cœur de cette majorité qui pensaient avoir trouvé le champion toute catégorie et qui se retrouvent avec un gourou illuminé.
Le mot de la fin avec vous, David Bosmorin.
C'est une vraie question. C'est une vraie question puisqu'en fait, on s'est rendu compte que la hausse de l'essence, c'était peut-être simplement un symbole, et que derrière, l'insatisfaction, elle est beaucoup plus générale.
Allez, merci à vous tous les quatre, Audrey Goutard, Virginie Leguet, Jean-Sébastien Ferjou et David Bosmorin d'avoir été les invités des informés de France Info. Pour ma part, je vous retrouve demain soir avec bonheur pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.